en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission En habit vert, un habit vert aujourd'hui endossé par Charles Sainte-Beuve. Alors quand on évoque aujourd'hui le nom de Sainte-Beuve, les premières images qui viennent à l'esprit, outre ce fameux portrait où il figure la tête nouée d'un grand mouchoir à sa table de travail, ce sont les écrits d'importance comme l'histoire de Port-Royal, les causeries du lundi, causeries auxquelles le critique littéraire moderne doit en fait presque tout, mais aussi la correspondance qui place Sainte-Beuve en face de ses contemporains, de George Sand à Lamennais ou encore à Jules Janin. D'autres images encore qui sont parfois comme des lieux communs, son amitié pour Hugo, qui se fracasse ensuite sur le désastre qu'est la vie intime de l'auteur des Orientales, ou encore, plus tardivement, certes, l'attaque en règle à laquelle devait ensuite se livrer Marcel Proust en signant son fameux « Contre Sainte-Beuve ». Bien oublié depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'œuvre de Sainte-Beuve semble de nouveau connaître l'intérêt des chercheurs et partant de là l'intérêt des éditeurs et du public. Alors Sainte-Beuve serait-il de nouveau redevenu fréquentable ? Il semblerait bien en effet que sa méthode critique, à défaut de sa littérature, ait encore bien des choses à nous apprendre. Alors quel est le contexte d'abord ? Charles-Augustin Sainte-Beuve est né à Boulogne-sur-Mer le 23 décembre 1804. Il est ainsi de 2 ans le cadet de Victor Hugo, qui jouera par la suite un rôle si important dans sa vie, et l'exact contemporain d'Amandine, Aurore, Lucille, Dupin de Franqueuil, alias Georges Sand, qui elle aussi l'influencera largement. L'enfance est placée sous le signe du deuil, celui du père prématurément disparu et dont le culte est entretenu par la mère et la tante du jeune Sainte-Beuve. Le milieu est de bonne bourgeoisie provinciale, catholique. L'installation à Paris où il suit sa mère pour son 14e anniversaire est sans aucun doute une étape fort importante dans la vie de l'adolescent qui devient bientôt interne au lycée Condorcet. Comme la plupart des jeunes gens de son époque, le grand homme de Charles Sainte-Beuve se nomme Chateaubriand. Mais il avoue aussi plus tard s'être passionné pour d'autres romantiques et notamment pour Alphonse de Lamartine. Élève brillant, il acquiert une solide formation en lettres classiques. Intéressé tout aussi bien par les sciences, il suit d'ailleurs de près les débats qui agitent alors le monde intellectuel, avec Lamarck, avec le baron Cuvier ou d'autres, et il choisit d'ailleurs de faire médecine sans renier en rien sa spiritualité, ni renoncer à son amour pour la poésie et pour ce qui va s'affirmer bientôt comme le mouvement romantique dont Sainte-Beuve est un défenseur fervent. Il propose d'ailleurs dès 1827 ses premiers textes littéraires au Globe, une feuille d'inspiration littéraire libéral et romantique fondé par Pierre Leroux. Cette même année 1827, il rencontre Victor Hugo et il est ainsi adoubé dans le cénacle constitué autour de Charles Nodier. Un an plus tard, un essai publié par Sainte-Beuve, qui paraît sous le titre de « Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle », défend la conception de la poésie des poètes de la Pléiade en particulier et de la Renaissance d'une manière générale, face aux classiques dont Sainte-Beuve jugeait alors le style glacé. De même qu'on s'accorde à considérer que ce texte a permis la redécouverte de l'œuvre de Pierre de Ronsard, il est intéressant de voir chez cet auteur de tout juste 24 ans un ton aussi polémique et aussi assuré. Un style qui sera bien sûr la marque de fabrique de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve critique littéraire, dont tout le Landerneau guettera bientôt les articles chaque lundi. L'admiration que Sainte-Beuve porte à Hugo se double bientôt d'une profonde amitié. L'ombre du poète est-elle à ce point écrasante ? Toujours est-il que les tentatives d'écriture suivantes seront souvent chez Sainte-Beuve des demi-échecs. Échec ainsi de « Vie, poésie et pensée » de Joseph Delorme en 1829, un ouvrage rédigé à la fois en vers et en prose. Échec de ses « Consolations » en 1830, un texte qui rassemblait la correspondance entretenue avec le couple Hugo. Échec encore pour son roman « Volupté » paru en 1834. Alors la rupture avec Hugo. Entre-temps, Sainte-Beuve a été confronté à l'un des événements les plus marquants de sa vie, sa rupture avec Victor Hugo, une rupture qu'il lui faudra encore affronter des années plus tard, lors de sa réception à l'Académie française, comme on va le voir. C'est qu'au fil des années 1830, l'intimité de Sainte-Beuve avec le couple formé par Adèle Fouché et Victor Hugo est allée grandissante. Et, comme il arrive parfois, en pénétrant dans le foyer du poète qu'il admire tant, Sainte-Beuve s'est aperçu du contraste formé par la vie publique de Hugo, le poète des honneurs, le chantre du romantisme, le héros de la bataille d'Hernani, et sa vie privée. Les malheurs domestiques de l'épouse délaissée ne l'ont pas laissé insensible, loin s'en faut. D'ailleurs, une lecture attentive des Consolations permettait déjà de s'en douter. Elle devient même patente à la parution d'une nouvelle intitulée Madame de Pontivy, qui paraît en 1837, mais qui ne connaît pas un grand succès. La liaison avec Adèle Hugo aliène immanquablement à Sainte-Beuve son meilleur ami. La brouille avec Hugo, qui intervient au milieu des années 1830, est sans doute aussi accentuée par des divergences d'ordre politique. Tout comme George Sand, déjà proche des Saint-Simoniens et dont il a protégé les débuts littéraires, écrivant notamment à propos du roman Indiana, œuvre à la fois romantique, féministe et politique, qu'il peint comme, je cite, « un monde vrai, vivant, le nôtre », Sainte-Beuve est tenté et par le christianisme social de l'abbé de Lamennais et par le socialisme de Leroux, imprimeur creusois et fondateur du Globe. Faut-il voir ensuite dans les succès croissants de Victor Hugo, dont la décennie suivante vient en quelque sorte consacrer la gloire, un motif de jalousie chez Sainte-Beuve qui ne connaît que des échecs littéraires? On l'a parfois dit, à tort à mon avis. En effet, la décennie 1830 n'est pas faite pour Victor Hugo que de réussite. Ainsi, Hernani, en 1829, a surtout été un succès de scandale, et la pièce a rapidement été interdite. Le roi s'amuse, en 1830, est un échec, et la pièce est tombée sous le coup de la censure. Marie Tudor, en 1833, est à nouveau un échec, tout comme l'opéra La Esmeralda en 1836. 1836, année difficile pour Victor Hugo, puisque par deux fois, il n'a pas été élu à l'Académie française. La critique littéraire. Conscient de ses propres échecs littéraires, Sainte-Beuve décide de se consacrer tout entier à la critique. Il devient ainsi collaborateur régulier de la prestigieuse Revue des Deux Mondes. Il fréquente assidûment les salons à la mode bien sûr, salons qui dans une époque où la presse est le seul médium et encore lorsqu'elle n'est pas suspendue, sont les endroits où se fait véritablement l'opinion. Dès 1836, Sainte-Beuve travaille à développer une méthode critique qui repose sur le principe qu'on ne peut pas séparer la vie d'un artiste de son œuvre et que bien au contraire, le milieu social ou les antécédents historiques sont un élément à prendre en compte pour le critique littéraire. Devançant ainsi les marxistes et leur notion de superstructure ou d'infrastructure, Sainte-Beuve estime qu'on peut raisonnablement classer les écrivains par famille, ce qui lui sera reproché avec véhémence près d'un siècle plus tard par Marcel Proust. Devenu en quelques années le critique le plus méthodique, le plus attendu mais aussi le plus redouté de son temps, Charles Sainte-Beuve rassemble avec succès tous ses portraits. Critiques et portraits littéraires, qui paraissent de 1836 à 1839, portraits de femmes en 1844 et portraits contemporains en 1846. Il partage à cette époque son temps entre Paris et Lausanne, enseignant en Suisse la littérature. Le grand œuvre qu'est l'histoire de Port-Royal. Il manquait aux critiques littéraires reconnus de réaliser son grand œuvre. Ce sera chose faite avec l'étude qu'il consacre aux jansénistes et à l'histoire de Port-Royal, née d'une série de portraits voués à Arnaud, à la mère Angélique, à Sacy ou bien à Pascal. L'étude sur Port-Royal vient officialiser le talent de son auteur. Elle témoigne aussi de sa maturité intellectuelle. Sainte-Beuve, en effet, rompt avec le courant romantique en 1840, comme il s'en explique dans « 10 ans de littérature », à une époque où il est vrai où le romantisme a jeté ses derniers feux. De même, ses recherches sur Port-Royal interviennent à une époque où l'auteur semble avoir perdu la foi. Cette histoire de Port-Royal n'en est pas moins le viatique pour l'Académie française. Sainte-Beuve est élu en 1844 au 28e fauteuil, et ce malgré les oppositions répétées de Victor Hugo, qui a voté contre lui à 11 reprises. Et c'est pourtant à Victor Hugo qu'il reviendra justement d'accueillir l'ancien ami de jeunesse. Alors le discours de réception à l'Académie française est un morceau de bravoure. C'est le 27 février 1845 que Sainte-Beuve prononce son discours de réception sous la coupole. Comme le veut la tradition, c'est à son prédécesseur Casimir de Lavigne, le poète et auteur dramatique, qu'il rend hommage. Néanmoins, quand on lit les premières lignes du discours de Sainte-Beuve, et lorsqu'on sait que c'est Victor Hugo, l'ancien ami, l'ami de jeunesse, qui le reçoit au nom de l'Académie, on ne peut s'empêcher de se demander si Sainte-Beuve ne cherche pas l'apaisement quand, au beau milieu de l'éloge à Casimir de Lavigne, il s'adresse à Victor Hugo en s'exclamant à propos des amitiés qui l'ont soutenu dans sa carrière, je cite, « Ces amitiés précieuses et illustres, en voulant bien me tendre la main du milieu de vous, m'ont enhardi et comporté. Elles m'ont rendu presque facile un succès que d'autres, plus dignes, ont attendu plus longtemps. Il se mêle malgré moi aujourd'hui un reste d'étonnement et de surprise jusque dans la reconnaissance. » Suit alors l'hommage à Casimir de Lavigne, l'auteur des Vêpres siciliennes et de l'École des vieillards, une pièce créée en 1823 par Talma et par Mademoiselle Mars qui avait rencontré un immense succès. Et pourtant là encore, c'est par un compliment à Victor Hugo que Sainte-Beuve loue le talent de Casimir de Lavigne. Je cite « Vous n'attendez pas, messieurs, que j'aille ici m'ériger en juge, discuter des genres, réveiller ou trancher de vieux débats. Je vois devant moi les hommes qui, à des degrés divers, ont donné à la scène française son éclat et ses nuances de nouveauté depuis plus de 20 ans. Ce n'était pas devant ces juges du camp qui ont pratiqué la reine. Ce n'est pas devant le grand poète qui me fait l'honneur de me recevoir en ce moment au nom de l'Académie, glorieux champion dans bien des genres et lui-même l'un des maîtres du combat, que je viendrai étaler et mettre aux prises des théories contradictoirement discutables, tour à tour spécieuses, mais qui n'ont jamais de meilleure solution ni de plus triomphante clôture que ce vieux mot d'un vainqueur, parlant à la foule assemblée, allons de ce pas au Capitole remercier les dieux, allons applaudir le Cid pour la 100e fois. Dans sa réponse, Victor Hugo ne fera pas preuve de la moindre mansuétude, et l'on peut se demander quelle est la part de sincérité et quelle est celle qui revient au désir d'humiliation lorsqu'il consacre l'essentiel de son discours non pas à présenter le nouvel académicien, mais bien plutôt à insister sur les hautes qualités qui caractérisaient l'ancien occupant au 28e fauteuil, ou encore à évoquer la ferveur qui présida à ses obsèques. Qu'on en juge plutôt par cet extrait. C'est Hugo qui parle. « Monsieur, vous venez de rappeler avec de dignes paroles un jour que n'oubliera aucun de ceux qui l'ont vécu. Jamais regrets publics ne furent plus vrais et plus unanimes que ceux qui accompagnèrent jusqu'à sa dernière demeure le poète éminent dont vous venez aujourd'hui occuper la place. » N'est-ce pas là ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement mettre la pression ? Et Hugo de poursuivre inlassable un discours tout entier tourné vers l'ancien immortel plutôt que vers celui qui lui revient d'accueillir. Je cite Hugo. « Vous avez apprécié, monsieur, selon la variété d'aperçus et l'excellent tour d'esprit qui vous est propre, cette riche nature, ce rare et beau talent. Permettez-moi de le glorifier à mon tour, quoiqu'il soit dangereux d'en parler après vous. Tel était, monsieur, l'homme justement admiré que vous remplacez dans cette compagnie. Succéder à un poète que toute une nation regrette, quand cette nation s'appelle la France, et quand ce poète s'appelle Casimir de Lavigne, c'est plus qu'un honneur qu'on accepte, c'est un engagement que l'on prend. » Et puis tout de même, après un long moment, la pression semble enfin retomber et la glace se briser. Victor Hugo, enfin, daigne poser son regard sur l'œuvre de Sainte-Beuve. « Cependant, monsieur, j'ai hâte de rassurer votre modestie. L'Académie peut le proclamer hautement, et je suis heureux de le dire en son nom. En vous appelant dans son sein, elle a fait un utile et excellent choix. Peu d'hommes ont donné plus de gages que vous aux lettres et aux graves labeurs de l'intelligence. » Le couronnement d'une carrière. La révolution de 1848 vient ensuite perturber ce grand casanier qu'est Charles Sainte-Beuve. Conservateur à la Mazarine, il en donne sa démission et décide alors de parcourir l'Europe. Il réside un temps en Belgique, puis rentre en France lorsque naît le Second Empire, dont il devient d'ailleurs rapidement l'un des turiféraires. On sait combien Napoléon III, toujours désireux d'ancrer plus solidement le soutien des renommées de son temps, pouvait se montrer généreux. Charles Sainte-Beuve, dont la conversion à l'Empire doit sans doute beaucoup à la protection et à l'amitié de la princesse Mathilde, est ainsi nommé sénateur en 1865. Son influence est alors à son apogée. L'académicien est dans le même temps professeur de poésie au Collège de France, professeur de littérature française à l'École normale supérieure de 1857 à 1861. C'est l'époque où paraissent les fameuses causeries du lundi, leur parution s'échelonnera jusqu'à 1852, puis les nouveaux lundis, de 1863 à la mort de Sainte-Beuve. Ces causeries du lundi sont un moment fort de la vie littéraire de ce second 19e siècle. Des années plus tard, après la mort de Sainte-Beuve, Jules Janin écrira « Monsieur Sainte-Beuve avait conquis, par grand miracle, un jour de chaque semaine, et les lundis appartenaient sans conteste à ce merveilleux écrivain. Chaque nouveau venu dans la vie, ou dans la mort, devenait soudain pour Monsieur Sainte-Beuve un grand travail dont nous attendions le résultat. » Lucide, L'académicien n'est pas aussi inféodé au régime de Napoléon III qu'il n'y paraît. Il n'hésite pas ainsi à défendre vigoureusement la liberté de presse avec laquelle le régime en place a tant de difficultés. Comblé d'honneur, il n'est pas davantage la dupe des systèmes, des clans et des coteries qu'il est l'un des premiers à avoir mis à jour et étudié à la manière d'un entomologiste, au risque d'apparaître comme un cynique pour les générations suivantes. On jugera néanmoins de l'objectivité de Sainte-Beuve par la manière dont, après ses ruptures avec Victor Hugo, comme lors de ses brouilles à répétition avec George Sand, il a continué de louer leur travail et de saluer leurs publications. George Sand ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qui écrivait ainsi à l'une de ses correspondantes « En fait d'amitié littéraire, j'ai Sainte-Beuve, autrement dit Joseph Delorme, dont l'âme et l'intelligence ne meurent pas et que les mauvaises influences n'ont pas étouffé. » La publication d'une importante correspondance vient encore éclairer la fin de la vie de Sainte-Beuve, dont l'influence intellectuelle connaît en revanche un certain déclin. Alors quelle postérité pour l'œuvre de Sainte-Beuve ? Ainsi que je le disais tout à l'heure, cette œuvre a connu une certaine éclipse après la Seconde Guerre mondiale. C'est oublié pourtant que la critique littéraire moderne lui doit beaucoup et que sans Sainte-Beuve, il n'y aurait pas eu Gaëtan Picon. On a vu aussi que l'histoire des religions, dont le poids est aujourd'hui considérable, au point qu'il est question d'en faire une discipline scolaire à part entière, doit beaucoup à l'histoire de Port-Royal, qui s'est inscrite en rupture avec l'écriture hagiographique ou romantique de l'histoire. Une œuvre qui fit dire à Jules Janin, son successeur à l'Académie française, Sainte-Beuve est entré dans ce travail au bruit des chapelets, il en est ressorti le fils adoptif d'Hérodote et de Platon. On a d'ailleurs parfois même parlé de Port-Royal comme d'une tentative d'histoire totale. Comment ne pas évoquer enfin la personne de Marcel Proust, dont l'attaque en règle de la méthode beuvienne est parfois réinterprétée aujourd'hui en faveur même de Sainte-Beuve. La thèse de Proust est connue, je cite, « Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société ou dans nos vices. Ce moi-là, si nous voulons essayer de le comprendre, c'est au fond de nous-mêmes, en essayant de le recréer en nous, que nous pouvons y parvenir. » Une affirmation qui met à mal la méthode beuvienne, selon laquelle il n'y a d'enquête littéraire que biographique. Mais laissons néanmoins aux spécialistes le soin de trancher sur ces querelles byzantines. Charles Sainte-Beuve est mort en 1869, et c'est son ami et protégé Jules Janin qui lui a succédé à l'Académie. Entre le moment de la mort du critique littéraire et celui de la réception de Janin, le 9 novembre 1871, près de 2 ans se sont écoulés. La guerre de 1870, la chute de l'Empire et surtout le désastre de la Commune ont contraint l'Académie à fermer ses portes et à interrompre ses travaux. Dans son éloge, Jules Janin brossera un portrait plein d'émotions de son prédécesseur et protecteur. Je le cite. Il excellait à donner aux choses anciennes l'air de la nouveauté et aux choses nouvelles l'autorité des choses antiques, expliquera-t-il ainsi, ajoutant encore « Les grands écrivains sont semblables à ces fleuves qui vont sans cesse apportant la fécondité aux terres les plus ingrates et s'agrandissant toujours. » Sainte-Beuve appartenait à la génération qui prit la robe virile au milieu des orages de 1814. Il fallait une âme forte, un esprit fier, pour écouter sans pâlir ces bruits terribles, la ruine et l'écroulement d'un si grand trône. Alors avant de nous quitter, chers amis internautes, j'aurais voulu vous donner quelques pistes qui vous permettront d'aller plus loin si vous le voulez. Les éditeurs ont publié ou ressorti récemment de nouveaux ouvrages de Sainte-Beuve ou sur Sainte-Beuve. Vous trouverez notamment dans la collection Folio chez Gallimard les portraits de femmes qui regroupent une quinzaine de portraits, parmi lesquels on retrouve ceux de Madame de Sévigné, de Madame de Staël, de Madame de Lafayette ou bien de Madame Roland. On retrouve ensuite une cinquantaine de portraits littéraires dans la collection Bouquins chez Lafon. Et puis, on trouve également dans Panorama de la littérature française, dans la Pochothèque, une soixantaine d'auteurs de Marguerite de Navarre aux frères Goncourt. Parmi les chercheurs, sur la bête noire de Proust, on retrouvera bien sûr le Contre Sainte-Beuve chez Folio, Gallimard, ainsi que de récents ouvrages, l'un de Michel Crépu, un Sainte-Beuve qui a paru chez Perrin, et un autre de Wolf Lepény, Sainte-Beuve au seuil de la modernité, paru chez Gallimard. Et puis bien sûr, Port-Royal, réédité chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, deux volumes, premier tome 1380 pages, second tome 1080 pages, le coffret est vendu à 68 euros. Merci beaucoup, au revoir.